l'émission cinéma mensuelle de Nathalie Islaël. Je suis ravie de vous retrouver en ce beau début de printemps pour la 7e édition de Film et moi. Nous parlerons de 3 films coup de cœur, de l'actualité locale du cinéma sous toutes ses formes. Nous parlerons vitalité des cinémas associatifs du département avec Emmanuel Giboulot, directeur du Cinématographe de Nantes, ce beau cinéma. Et Emmanuel nous présentera quelques films de son choix et nous parlera également des transformations à venir de cette belle structure, le Cinématographe. Emmanuel, je suis ravie de t'accueillir dans Film et moi. Bienvenue à toi.
Bonjour.
Bonjour. Alors, commençons par 2 films que j'ai mis dans mon petit panier coup de cœur. 2 films qui n'ont, à première vue, rien en commun et qui, en y regardant de plus près, portent la même espérance. L'espoir que la société protège l'enfance des systèmes de violence et de domination. L'enfance maltraitée, fracassée, à la parole inaudible, dans une société qui se préoccupe davantage de préserver ses institutions, l'Église en particulier, que les plus fragiles. Mais aussi l'enfance protégée malgré la douleur de la perte par des adultes, qui doutent d'eux-mêmes souvent, mais sont entraînés dans des courants de bonté et d'amour inconditionnel dont ils ne se croyaient pas capables. L'enfance qui peut tout, le lieu où tout se joue. Je vous propose d'explorer le premier film après ça.
Vous êtes en lien avec la cellule d'écoute des diocèses de Savoie.
Bonjour, je m'appelle André Boiron. Je vous parle au nom de plusieurs collègues qui ont séjourné au centre de redressement de l'abbé Garin. Et nous sommes réunis pour essayer de vous rencontrer afin de vous expliquer tout ce qu'on a subi. Pourquoi cette brutalité? Pourquoi on crevait la faim? Pourquoi sans arrêt des coups à répétition? Pourquoi? Parce qu'on était quand même des mômes.
C'était des tortionnaires, c'était pas des chefs ni un curé.
Toi, moi, ça me serre un peu le palpitant.
Pendant la course, tu penses à rien?
Tu penses à rien,
Ouais. Tu fais le vide?
C'est le corps du Christ, amen.
Daniel, tu vas plonger?
Non.
Allez, plonge.
On se réconforte les uns les autres.
Moi, je suis resté 2 ans là-haut. 2 ans de violence. Dans une institution tenue par un homme de l'Église.
C'est pas l'Église, c'est pas ma religion qui m'a infligé ça, c'est l'être humain qui me l'a infligé.
Oui, mais l'abbé Guérin, c'est bien l'Église. On est plus de 50-60 à donner les mêmes témoignages. On les a pas inventés, puisque tout concorde.
Nous souhaitons qu'effectivement la vérité soit faite.
Ah, j'aimerais bien quand même que ça soit reconnu. Reconnu qu'il y ait une suite et qu'on ait des réponses.
Ça, c'était la bande-annonce du film documentaire « Les oubliés de la belle étoile » de Clémence Davigo, sorti en 2024. C'est un documentaire bouleversant et à la fois plein de pudeur sur des enfants devenus hommes tant bien que mal après avoir traversé l'enfer dans le centre de correction Mercury, en Savoie, tenu par l'abbé Garin. Ce centre, André, Michel et Daniel y ont séjourné entre 1948 et 1970, année de sa fermeture. Ils se retrouvent dans une maison de Savoie, non loin du centre, et Clémence Davigo en filme magnifiquement la beauté pure, qui contraste avec la noirceur et les horreurs du vécu de ces pensionnaires de la Belle Étoile, surnom de ce lieu. Alors rapidement, les 3 hommes se souviennent de leur quotidien dans le centre. Les coups, les brimades, les rationnements d'eau et de nourriture quotidiens qui faisaient qu'ils n'avaient plus que la peau sur les os. Les coups qui pleuvaient lorsqu'ils osaient boire l'eau de la rivière ou chapardaient un quignon de pain. Les tympans crevés à force de baffes sur les oreilles. Les nuits dehors à courir nus dans la neige. Les blessures non soignées. Les attouchements subis par les plus petits. Tous les 3 sont sortis cabossés de cet enfer tenu par des prêtres catholiques. Et depuis, les années ont passé. Certains sont morts, d'autres sont handicapés. Et ceux qui restent sont souvent beaucoup trop malades ou âgés pour témoigner. Et l'histoire de ce centre résonne particulièrement avec l'actualité des paroles libérées par les pensionnaires de Bétaram et du scandale de l'omerta qui régnait jusque chez les notables locaux pour couvrir les agissements d'institutions réputées comme exemplaires de l'extérieur. À Mercury, comme à Bétaram, les hommes sortis de cet enfer ont enfoui leurs paroles sous le couvercle de la honte, voire de la culpabilité, car personne ne voulait les entendre, personne ne voulait les croire. C'était un système de domination sur les plus fragiles, sans défense, ces plus fragiles qu'il fallait mater. André, Daniel et Michel rencontrent une association catholique mandatée par le diocèse pour recueillir la parole de personnes ayant subi des violences dans l'église. Alors, lors de cette scène, on se croirait chez le psy avec un couple compatissant qui leur promet de faire remonter leur dire à l'évêque. Et l'évêque, ils finissent par le rencontrer. Et à leur demande de réparation, d'indemnisation, à leur souhait de poser une plaque en hommage aux victimes du centre Mercury, l'évêque, embarrassé, soudain pris de tic, à la langue de bois digne des pires politiciens, se contente de répondre, en jetant un œil embarrassé à la caméra, que le fait de les écouter est déjà en soi une réparation et une reconnaissance. Pas d'excuses, pas de mots sur l'indemnisation des victimes. Et André le dit, lui qui a basculé vers la délinquance très jeune, qui a passé sa vie en prison, ne connaissant que la violence comme mode de fonctionnement, incapable d'apprendre, lui dont la vie, il le dit, a été bousillée. Il attendait à minima des excuses et ils repartent bredouille. L'église veut laver son linge sale en famille, ne pas salir son image, ne rien avoir à faire avec les tribunaux des hommes ici-bas, au détriment de centaines d'hommes aux vies fracassées. Et la réalisatrice Clémence Davigo fait surgir de l'ombre ces hommes qu'on a laissé vieillir, sans les écouter, qui disparaîtront bientôt, effaçant toute trace de témoignage, comme ont été effacées les archives du centre Mercury. Elle nous montre comment la coercition, l'autorité abusive seront rayées des mémoires de l'Église. Mais là est une des forces du cinéma, lorsqu'il devient un miroir des travers de nos sociétés grâce à des documentaristes soucieux de rendre la parole aux invisibilisés. Clémence Davigo signe là un documentaire puissant, à voir pour ne jamais oublier. Alors le film, il est malheureusement distribué dans très peu de salles, mais il est à voir sur Tenk, l'indispensable plateforme de films documentaires. Restez avec nous pour le deuxième coup de cœur, ce sera après ça.
Цыгане любят песни, а песни удалые. Ой, мама, 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 люблю цыгана Яна. Ой, мама, 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 люблю цыгана Яна. Цыгане любят шуби, шуби, а шуби не простые. Цыгане любят шуби. А шуби дорогие, ой, мама, 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 люблю цыгана Яна, ой, мама, 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 люблю цыгана Яна. Цыгане любят девки, девки, а девки непростые. Цыгане любят девки, а девки золотые. Ой, мама, 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 люблю цыгана Яна, ой, мама, 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 люблю цыгана Яна. Цыгане любят кони, кони, а кони непростые. Цыгане любят кони, а кони вороние. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Цыгане любят вино, вино, а вино непростое. Цыгане любят вино, близкого разлива. Ой, мама, 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 цыгана Яна, ой, мама, 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 любит цыгана Яна.
L'enfance, elle peut aussi être consolée, choyée malgré les douleurs, comme dans le bouleversant film de fiction de Karine Tardieu, L'attachement. Le film, il a été adapté du roman d'Alice Fernet, L'intimité. Karine Tardieu, elle passe souvent sous les radars des critiques. Et pourtant, ces films ont tous trouvé leur public, que ce soit avec « Du vent dans mes mollets » en 2011, avec Agnès Jaoui et Denis Podalydès, l'histoire d'une gamine prise en sandwich entre un père cynique et une mère adorablement étouffante, ou avec « Au témoin d'un doute » en 2017, avec François Damien et Cécile de France, où elle explore la paternité contrariée. Les sujets qu'elle aborde, ils sont souvent, enfin toujours, intimes, minimalistes. Et les personnages, ils ont les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Et son dernier film, tourné à Rennes, actuellement sur les écrans, emprunte le même ton tragicomique. Ces personnages, le moindre grain de sable peut les faire vaciller. Ainsi, dans l'attachement Sandra, quinca, indépendante et sans enfant, par choix, voit débouler dans sa vie Elliot, le fils des voisins de palier, qu'elle doit garder pendant que sa maman accouche. Le bébé survit à l'accouchement, mais pas sa mère. Et le film raconte l'impact brutal de cette disparition sur les vies de ceux qui restent, sur ce père veuf, sur Elliot et sur Sandra, qui devient, sans l'avoir vraiment choisi, membre de la famille. Sandra, elle se laisse surprendre par l'affection grandissante pour Elliot. Et on les voit grandir et évoluer ensemble sur plusieurs années. Les liens de famille se redessinent et la question de ce qui constitue une famille, est-ce que seuls les liens du sang suffisent à faire famille, est soulevée par Karine Tardieu avec subtilité. Et le questionnement intime des femmes sur le choix d'enfanter, le poids de la maternité est abordé avec drôlerie et délicatesse, en particulier dans une scène où la grand-mère lance un « on emmerde la nature » pour se consoler de la culpabilité liée à la perte d'un enfant. L'émotion, elle est certes affrontée de face, mais sans jamais forcer le trait. Et les personnages sont sublimés par l'interprétation tout en intériorité de Valeria Bruni Tedeschi et Pio Marmaille. Karine Tardieu, elle a offert à Valeria Bruni Tedeschi et à Pio Marmaille leur meilleur rôle, tout en émotion rentrée, avec une élégante pudeur. Et le film, il est aussi riche en personnages secondaires qui complètent cette famille extensible, comme la puissante Vima Laponce ou le cynique Raphaël Quénard. On retrouve aussi avec bonheur Catherine Mouchet et Marie-Christine Barrault. Karine Tardieu, elle explique qu'elle ne veut plus d'esbrouf dans la mise en scène, qu'elle va de plus en plus vers l'épure pour s'intéresser seulement aux personnages et être au plus proche d'eux. Alors, c'est un mélo assumé, mais de ces mélos subtils, sans pathos larmoyant, bon, qui vous tire les larmes quand même, et c'est une vision assez lumineuse des relations humaines, loin des stéréotypes, éloge à la douceur. On s'y reconnaît dans ces balbutiements, ces vies de tout et de rien, entre deuil, attachement progressif, rupture. Et puis, parce que l'amour qui sauve, on a quand même envie d'y croire dans ce monde de brutes. Donc le film, l'attachement, il est programmé au Concorde et dans vos salles préférées. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2, dans Film et moi, en compagnie d'Emmanuel Giboulot du cinématographe. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un son d'un des groupes de la scène musicale palestinienne indépendante, le groupe 47 Soul. Est-ce que tu vois à quel film il fait référence, Emmanuel? Parce que vous l'avez programmé au cinématographe il n'y a pas longtemps, un film palestinien.
On en a programmé quelques-uns.
Ouais. Le dernier, il y en a eu plusieurs.
Peut-être Voyage à Gaza.
Oui, ou... il y en a eu d'autres.
Ouais. Il y a eu Bye Bye Tiberias.
Oui.
Il y a eu Noah's Land.
Voilà, oui. Ouais. Alors, les cinématographes, ils reprogramment souvent des films qui n'ont pas toujours eu le succès public qu'ils auraient mérité. Alors, par exemple, ce documentaire, No Other Land, mais qui a obtenu l'Oscar du meilleur documentaire 2024 et le prix du documentaire à la Berlinale 2024. Il a été co-réalisé par deux Israéliens, Rachel Zohar et Yuval Abraham, et deux Palestiniens, Bazel Adra et Hamdan Balal. Ils ont filmé à quatre mains l'occupation de l'État israélien en Cisjordanie. Et le film, il montre notamment comment l'armée israélienne détruit méthodiquement des maisons palestiniennes et force leurs habitants à quitter leurs terres. Depuis 2019, jusqu'au lendemain des attaques du 7 octobre, Bazel Adra, palestinien né en 1996, filme la violence de l'expulsion de son peuple par l'armée en Cisjordanie, en particulier dans les hameaux de Massafer Yatta. Alors dans le film, on assiste à un ballet de tractopelles, de militaires, de menaces à bout portant. En 1980, la zone elle a été déclarée zone d'entraînement militaire fermée par Israël. L'armée est intervenue régulièrement pour détruire habitations, écoles, que les habitants reconstruisent avec les moyens du bord. Bazel a vu le village détruit 7 fois. Donc le sort de ce village, il est assez emblématique du droit finalement de non-existence accordé aux Palestiniens. Il y a eu un petit groupe qui s'est constitué autour de Bazel Adra, son ami photographe Hamdan Balal, la réalisatrice Rachel Zohar et le journaliste Yuval Abraham. Ils ont filmé les images au fil du temps. No Other Land rappelle un autre documentaire de 2013 sur le même sujet qui s'appelait « 5 caméras brisées » de Emad Burnat et Guy Davidi, qui montrait comment l'État israélien voulait disjoindre le village de Bilin de ses terres cultivables en érigeant un mur pour pouvoir offrir la terre aux colons israéliens. La haute cour israélienne avait, à l'époque, déclaré ce tracé illégitime. 11 ans plus tard, la stratégie de destruction s'est intensifiée avec un gouvernement gagné par l'idéologie d'extrême droite, happé par l'emploi de la force et le refus de dialogue. C'est ce que nous montre avec puissance le travail de ces 4 documentaristes. Mais avec ici, aujourd'hui, peu de chance pour que la haute cour joue son rôle d'arbitre. Le gouvernement Netanyahou, il a tout fait, il a mené une intense campagne contre ce documentaire et qui visait à interdire sa projection. Et des projections pirates ont été organisées en Israël, en Cisjordanie, en particulier par l'association Standing Together, association pacifiste composée d'Israéliens et de Palestiniens. Donc ce film, c'est un outil politique pour aider au dialogue et rompre la logique mortifère de guerre. Et le fait de lui attribuer un Oscar, c'est aussi affirmer le pouvoir des images et montrer ce que peut le cinéma. Résister aux pressions des régimes autoritaires, montrer la réalité en cours, témoigner pour l'histoire, ne pas céder à ces régimes qui voudraient invisibiliser les histoires humaines pour justifier la colonisation et écrire l'histoire à leur façon. On peut se dire peut-être que le cinéma ouvre la voie à une représentation plus humaine et nuancée des histoires, en particulier palestiniennes. Et à l'heure de la désinformation et des faits alternatifs, No Other Land nous rappelle l'importance d'écouter des voix qui résonnent depuis les territoires oubliés. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la politique de censure systématique contre le film No Other Land du gouvernement peut s'avérer contre-productive, ce qui nous donne un peu d'espoir. D'après un membre de l'association Standing Together, plus le gouvernement s'oppose à ce film, plus ils reçoivent de demandes de projection. Alors Emmanuel, pourquoi est-ce que le cinématographe a programmé ce film? Il a été programmé avant de recevoir un Oscar, il me semble.
Oui, puisqu'on programme les films souvent 2 ou 3 mois avant... En amont, donc oui, on ne savait pas du tout qu'il allait avoir l'Oscar. Là, cette programmation, elle intervient dans le cadre d'une manifestation nationale qui s'appelle Best of Doc, donc c'était la 6e édition, et qui reprend, enfin qui propose tous les mois de mars une sélection des 10 meilleurs documentaires sortis l'année précédente. Nous, on y participe depuis l'an dernier et on choisit dans la liste des documentaires qui nous semblent plus qu'intéressant et qu'on n'a pas eu encore l'occasion de passer. En fait, c'est un peu un critère pour les choisir. Donc, on en avait 5 cette année et il se trouve qu'il y en avait 3 autour de la Palestine. Donc, on les a regroupés dans la même journée. Effectivement, on a travaillé les réseaux avec l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, avec qui on travaille depuis des années. Ils ont un festival au mois de janvier qu'on accueille aussi.
Vous l'accueillez avec le Concorde, il me semble.
Avec plein de salles en Loire-Atlantique.
Oui, plusieurs salles, tout à fait.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2, à l'écoute de Film et moi, avec notre invité Emmanuel Giboulot, directeur du Cinématographe.
Explorons maintenant les choix de mon invité avec ce premier film dont vous reconnaîtrez peut-être la musique, une partie de la musique, après ça. Alors Emmanuel, est-ce que tu as reconnu ?
Oui, Le Parrain.
Le Parrain, oui, tout à fait. Alors oui, c'est un des thèmes de l'incontournable compositeur
Nino Rota,
qu'il a écrit donc pour Le Parrain 2, sorte de Coppola, sorti en 1974. Alors on va essayer de faire le pitch un peu de cette saga. Donc en 1901, en Sicile, le tout jeune Vito Andolini voit son père, son frère, sa mère assassinés par un parrain local. Donc il s'enfuit vers les États-Unis, où les services de l'immigration le rebaptisent Vito Corleone. Et 50 ans plus tard, aux États-Unis, son fils Michael dirige d'une main de fer l'empire criminel de son père et cherche à étendre les activités criminelles de la famille à Las Vegas et à Cuba. Alors à la fin du Parrain 1, après une production et un tournage assez chaotique, Coppola, il ne voulait pas faire de suite. Mais après avoir négocié avec le studio de production Paramount, négocié la promesse d'une liberté de choix artistique totale et de financement de son film suivant, Conversation secrète, il a accepté de retrouver les personnages de Parrain 1 dans donc ce Parrain 2. Et le film, il nous fait comprendre la dimension romanesque et tragique du destin de cette famille, de la famille Corleone. Donc il met en parallèle l'ascension du jeune Vito, interprété par le génialissime Robert De Niro, et la succession que doit assumer son fils Michael après sa mort. Donc Michael, interprété par Al Pacino, tout en violence contenue. Le film se déroule sur deux époques, avec un dialogue constant entre l'ascension du père et la décomposition morale et familiale du fils. Donc il est question de lutte de pouvoir, de trahison, avec une vraie tension dramatique. Et cette tension, je trouve, elle est vraiment exacerbée par la musique de Nino Rota. Alors la photographie aussi de Gordon Willis, qui était surnommé « The Master of Darkness », renforce la dimension tragique qui est lié un petit peu au crépuscule d'un empire. Ce qu'on peut noter, c'est que la durée du film, 3h20, d'ailleurs Coppola aurait bien aimé que ça dure plus longtemps, elle échappait complètement à l'époque au cadre commercial standard. Alors qu'aujourd'hui, c'est presque devenu la norme des films de plus de 2 heures en tout cas. Le film a obtenu 6 Oscars. De Niro a obtenu un Oscar pour son interprétation de Vito. Coppola a obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur. Nino Rota, la meilleure musique. L'Oscar du meilleur film de l'année, du meilleur scénario et des meilleurs décors. Alors Emmanuel, pourquoi ce choix du Parrain 2 ?
Parce que Coppola, c'est un cinéaste important pour moi, même s'il a pu me décevoir très récemment. Mégalopolis.
Oui, Mégalopolis.
Compliqué. Non, c'est un cinéaste très important, comme tous les cinéastes du Nouvel Hollywood. En fait, c'est un peu une base de ma cinéphilie, ce cinéma américain des années 70. Je trouve que dans le Parrain, dans la deuxième partie du Parrain, il y a une forme d'accomplissement dans le cinéma de Coppola, même si c'est difficile de choisir, donc si ça lui permet de réaliser Conversation secrète, ouais. Il sera Palme d'Or, sa deuxième Palme d'Or, Apocalypse Now, on enfile quand même les chefs-d'œuvre en très peu de temps chez Coppola. Non, le Parrain 2, il y a cette mystique du film de mafia qui s'est réinventé et en même temps cette ampleur romanesque qu'on a encore plus dans le deuxième volet, plus que dans les deux autres, avec ce montage alterné entre les deux époques, effectivement, oui, qui a tellement pas plu aux producteurs que...
Oui, c'était inhabituel.
Ils en ont fait une série télé où ils ont remis dans l'ordre chronologique, ce qui est une absurdité totale. Voilà, ils ont quand même réussi à en faire quelque chose à leur sauce, les producteurs.
Ouais. C'est compliqué
contre Coppola.
Résister.
Mais voilà, c'est pour moi une sorte de chef-d'œuvre absolu, ce deuxième volet.
Et qu'est-ce que tu penses du Parrain 3? Parce qu'il y a eu un 3, il me semble.
Oui, il y a eu un troisième volet. Je l'aime beaucoup aussi.
Oui,
il a été beaucoup critiqué pour ça, mais plus le temps passe et plus le film y gagne. En fait, tout fonctionne, Andy Garcia. Enfin, voilà, il y a une espèce de patine années 80 qui marche très très bien. C'est grandiloquent, la fin avec l'opéra, enfin le meurtre de Michael sur Art d'Opéra. En fait, ça. C'est un opéra, le film. Donc
C'est vrai que dans le 3, Michael, il est vieux, il est malade, il est rongé par la culpabilité, en fait. Et puis, il essaie de se racheter. Alors, peut-être ce côté un peu rédempteur qui a peut-être dérangé et qui était assez inattendu pour les fans du Parrain. Eh bien, revoyez donc le Parrain 1, le Parrain 2, le Parrain 3 pour vous replonger dans cette saga qui est une sorte de métaphysique du mal, si on peut dire. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 dans Film et moi et nous sommes toujours en compagnie de Emmanuel Giboulot, directeur du cinématographe. Continuons à explorer les choix de notre invité après ça.
Thank you.
Alors Emmanuel, est-ce que tu as reconnu?
Quand même aussi, oui. Il était une fois en Amérique.
Oui, Il était une fois en Amérique, c'est donc un des thèmes de la musique du film de Sergio Leone, qui est sorti en 1984, et donc composé par, Ennio Morricone. Et Morricone, il a fait appel pour ce thème à Georges Zamfir, qui était un grand spécialiste incontesté à l'époque de la flûte de Pan. Et dans le film, c'est le personnage de Cockeye, donc joué par William Forsythe, qui joue la flûte de Pan. Son instrument fétiche qui l'accompagne tout au long du film comme une vraie signature musicale. D'ailleurs, le thème s'appelle Cockeye's Song. C'est aussi un clin d'œil à l'harmonica qui avait un rôle similaire avec le personnage de Charles Bronson dans « Il était une fois dans l'Ouest ». Alors, « Il était une fois en Amérique » clôt la trilogie sur le temps de Sergio Leone. Cette trilogie porte sur plusieurs périodes clés de l'histoire américaine. « Il était une fois dans l'Ouest », « Il était une fois la Révolution » et donc le dernier de la trilogie « Il était une fois en Amérique ». Il est inspiré par un livre autobiographique d'un petit gangster juif new-yorkais, Harry Gray, qui s'appelait The Hoods. Donc c'était une gangster story sans gloire. Alors le héros, il n'est pas Al Capone, il n'est pas Lucky Luciano. Il est d'ailleurs obligé d'écrire lui-même son autobiographie. Sergio Leone, il a consacré 12 ans à l'écriture du scénario avec 4 autres scénaristes. Et le film, il a été tourné entre New York, Toronto, Rome et Venise. Alors, le pitch, c'est l'histoire de Nathan Aronson, surnommé Noodles, homme vieillissant qui revient à New York et se rappelle sa jeunesse dans le quartier juif de Lower East Side. Le film, il couvre 40 ans de la vie de Noodles et de ses amis, depuis leur enfance dans un milieu populaire à l'époque de la Prohibition, jusqu'à leur ascension vers les plus hautes sphères du crime organisé, jusqu'à la disparition mystérieuse de Noodles et son retour à New York sur les traces de sa jeunesse dans les années 60. Max, interprété par le saisissant James Wood, dont le visage émacié nous hante. Alors Max et Noodles, interprété donc par le génial, encore lui, De Niro, signe un pacte d'éternelle amitié. Leur chemin se sépare quand Noodles est envoyé en prison. Il se retrouve à sa sortie de prison, en pleine période de prohibition, jusqu'à ce que la trahison les sépare à nouveau. Alors il y a les épisodes aussi dans les ruelles du quartier de Lower East Side, à l'ombre du grand pont de Brooklyn, majestueux et inquiétant, qui illumine l'histoire. Certains y voient l'anti-parrain. Parce que Leone, il n'a pas voulu faire une saga mafieuse, mais une fable, comme l'indique le titre. Donc c'est plutôt un film sur le souvenir, l'amitié, la nostalgie, la mort. Et des promesses de l'enfance à la nostalgie de la vieillesse, Sergio Leone part à la recherche du temps perdu. Alors la référence proustienne, elle apparaît d'ailleurs à un moment du film, lorsque Mo, un des amis de la petite bande, demande à Noodles, qu'il retrouve vieillissant après sa disparition. « Qu'as-tu fait toutes ces années ?» Et Noodle répond « Je me suis couché de bonne heure. » Alors Emmanuel, pourquoi ce choix ?
Là encore, c'est très important dans ma cinéphilie parce que c'est un film que j'ai vu très tôt, enfant.
Tu avais quel âge ?
Je ne sais pas exactement, je pense que j'avais 8, 9, 10 ans par là. C'était un dimanche soir sur TF1, ouais. Quelque chose comme ça. Ça m'avait fasciné. Enfin, j'en ai encore des images de cette première vision coupée par une pub en VF, ouais. Etc. Mais quand même, je me souviens avoir ressenti physiquement ce que pouvait faire le cinéma. Et puis après, c'est un film que j'ai vu et revu des tas de fois au cinéma, la version réalisateur, en DVD, etc., en Blu-ray, et donc j'ai enfin pu lire le livre cette année, puisqu'il n'avait pas été traduit en fait jusqu'à récemment, il est enfin disponible.
D'accord.
C'est pas un grand roman, mais oui. C'est très intéressant à lire quand on oui. quand on connaît bien le film en tout cas. Et voilà. Et puis par ailleurs, les films de Leone, c'est toute mon enfance aussi. En tout cas, la trilogie du dollar, Il était une fois dans l'Ouest, tout ça, c'est des choses qui m'ont construit. Ouais. Et voilà, Il était une fois en Amérique, ça, c'est le dernier film de Leone. C'est vraiment un film crépusculaire. C'est un film où il y a tout le cinéma dedans, presque. Enfin, c'est une espèce de chef-d'œuvre ultime qu'on peut revoir sans fin. On y découvre des détails tout le temps. On peut le réinterpréter différemment à chaque fois. Probablement que Noodles est mort bien plus tôt que ça, à 30 ans. Et tout ce qui se passe après, c'est juste un délire de fumerie d'opium.
Ah oui, oui, parce que je n'ai pas parlé de ça. C'est vrai, la scène début, en fait.
La scène d'ouverture, c'est... Il pense avoir tué James Woods et il va à la fumerie d'opium à la fois pour se cacher et probablement qu'il va mourir là. Et son fantasme, ce serait en fait, James Woods n'est pas mort, en fait, je vais pouvoir retrouver mon amour d'enfance 30 ans plus tard, etc.
Et revenir sur les traces après de mon enfance. Oui, c'est vrai, on peut l'interpréter comme ça aussi. C'est ça qui est magnifique dans ce genre de film. C'est tellement d'interprétations possibles. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2, toujours à l'écoute de Film et Moi en compagnie de notre invité, Emmanuel Giboulot, directeur du Cinématographe. Continuons à explorer les choix de notre invité avec ça.
And I'm thinking as I'm sitting here now, well maybe this is my big break, this is my big chance, you know what I mean?
You don't just walk onto a network show without experience. Now, I know it's an old hackneyed expression, but it happens to be the truth. You got to start at the bottom.
I know, that's where I am, at the bottom.
That's a perfect place to start.
So will you please give your warmest greetings to the newest king of comedy, Rupert Pupkin.
His name is Rupert Pupkin. He lives in a world of make-believe.
Oh, Jerry, I love this guy. Always coming up with these great lines. I love him. I love him.
Nobody can remember his name.
Mr. Pupkin.
Mr. Pupnik.
Mr. Puffer.
Rupert.
Pupkin, P-U-P-K-I-N.
But by 11:30 tonight, the whole world will know that Rupert Pupkin is the new king of comedy. Robert De Niro, Jerry Lewis, in a Martin Scorsese picture. The king of comedy.
Alors Emmanuel, bah oui, tu as reconnu, tout est dans la présentation, tout est dit ou presque. Donc c'est La valse des pantins de Martin Scorsese de 1983. Le titre original c'est The King of Comedy. Alors ça c'est une drôle de manie que les distributeurs ont de proposer une traduction qui est souvent bien éloignée du titre original et donc de la vision du réalisateur. Alors Robert De Niro, encore lui, achète à l'époque les droits d'un scénario écrit par le critique de cinéma Paul Zimmerman et il convainc Scorsese de le réaliser en lui disant que le tournage pourrait être rapide parce que Scorsese était engagé sur d'autres projets. La valse des pantins est assez méconnue dans la filmographie de Scorsese. Il a tourné après Raging Bull et c'est donc l'histoire de Robert Pupkin, dont beaucoup de gens ont du mal à souvenir le nom, du nom. Il est interprété par Robert De Niro. C'est un grand chasseur d'autographes. Il est persuadé d'être un génie comique méconnu. Et un jour, grâce à son ami Masha, il parvient à rencontrer brièvement Jerry Langford, interprété par le génial Jerry Lewis. Donc Jerry Langford, qui est un célébrissime animateur d'un show télévisé. Et après cet échange, Rupert se convainc que Langford est devenu son ami et qu'il est prêt à lui accorder une place de choix dans son émission à succès. Donc Rupert, il se met à répéter d'arrache-pied son numéro favori pour le présenter au plus vite à l'animateur. Mais Langford, il fait tout pour ne pas rencontrer son admirateur un peu collant. Et Pupkin décide alors, avec son ami Masha, de se venger. C'est un film au décor qui est très travaillé, avec une alternance entre le béton des rues de New York et le plastique des bureaux. Et il y a une scène assez culte où Rupert s'adresse à la photo géante d'un public hilar. Il y a une alternance des scènes de la réalité du récit, des scènes de fantasmes du personnage de Rupert et des scènes du show télévisuel. C'est assez désarçonnant et ça questionne notre rapport à l'image. C'est aussi une satire de la soif de célébrité générée par la télévision, encore très vraiment d'actualité à l'aune de l'avènement des égotripes sur les réseaux sociaux. Et ça aborde la folie des grandeurs. Ça va inspirer au réalisateur Todd Phillips le film Joker. Et alors le film propose aussi, surtout, une mise en valeur
alors peut-être abusive, on peut en discuter, de Robert De Niro. Et ça a été un échec commercial à sa sortie, mais c'est devenu une référence avec le temps, comme beaucoup d'autres films. Alors Emmanuel, pourquoi ce choix? Moi, je vois le point commun. Le point commun, c'est De Niro quand même.
Ouais, je ne m'en étais pas rendu compte en l'écrivant, mais effectivement, ouais. Ça me paraît évident. Après, ouais. De Niro... symbolise presque à lui tout seul tout ce cinéma américain des années 70-80, en tout cas un certain cinéma américain, évidemment. Donc là, La Valse des Pantins, c'est encore un cinéaste issu du nouvel Hollywood, Scorsese. Sauf que c'est effectivement un film à la base beaucoup moins connu dans sa filmographie, pour lequel j'ai de la tendresse, en tout cas comme After Hours, par exemple.
Oui,
parce qu'on, voilà, il y a Taxi Driver, Les Affranchis, etc. Ouais. Tout ça sont des films géniaux, mais on passe souvent à côté de ces films dits plus mineurs, qui ne le sont pas vraiment, en fait. Et La Valse des Pantins, en plus, ça a été un échec total. Il fait ça, Scorsese, une période où il est totalement accro à la cocaïne. De Niro aussi, d'ailleurs. Ils portent ce film tous les deux et ils se plantent totalement, un peu trop sûrs de leur succès, je pense. Et c'est ça qui rend le aussi, ça se sent dans le film, cet aspect malade des gens qui font le film. Il y a une perversion dans le film qui est assez jouissive. Et pour moi, c'est à côté des performances physiques d'acteurs de De Niro, Raging Bull, je perds 30 kilos, etc. Dans ce film-là, c'est un de ses meilleurs films en tant qu'acteur, je trouve. Il arrive à faire passer quelque chose de super inquiétant juste par un regard.
Personnage illuminé.
Le génie de faire de Jerry Lewis un espèce de gros connard.
Oui. Et je sais pas, je me suis pas renseignée, je sais pas si Jerry Lewis il avait eu des rôles aussi dramatiques avant ce film.
Je pense pas, non. C'était vraiment le
premier.
L'amuseur de service.
C'est ça.
C'est un total contre-emploi.
Complètement un rôle en contre-emploi qui lui va vraiment, vraiment bien, quoi. Cette espèce d'inquiétude aussi, et puis d'apparente tranquillité. En fait, il est forcément très, très angoissé par tout ce qui arrive. Et puis je trouve que le personnage d'illuminé de Niro, il se rapproche du personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, finalement.
Oui, c'est un peu son cousin, son cousin détraqué qui s'intéresse plus à la télé.
C'est fou, ces personnages qui sont capables d'inventer, d'aller chercher dans les noirceurs de nos âmes. Mais revoyez-le, en tout cas, si vous pouvez, parce que ça vaut toujours la peine.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2, à l'écoute de Film et moi, avec notre invité, Emmanuel Giboulot, directeur du Cinématographe.
You used to dream yourself away each night to places that you never made of wishes that you whisper to yourself. Back when every night the moon and you would sweep away to places that you knew you would never. Now whiskey gives you
Alors, ce que vous venez d'entendre, ça fait partie de la BO du film La Valse des Pantins. C'était Ricky Lee Jones sur une musique de Tom Waits, des paroles de Tom Waits, Rainbow Wings. Alors, parlons maintenant du cinématographe avec notre invité, donc Emmanuel Giboulot, directeur de cette belle structure. On peut parler d'abord de l'histoire de ce cinéma. Donc, c'est la salle de cinéma la plus ancienne de Nantes, donc c'est une institution. La plus ancienne salle de cinéma d'art et d'essai, de cinéma permanent de Nantes. Ça date de 1924, il me semble. C'était
1908.
Ah, 1908. Ok. Alors, c'était la salle Saint-Pierre, je pense, ça dépendait de la cathédrale à l'époque, non ?
C'est après la salle Saint-Pierre. Au départ, ça s'appelle l'American Cosmographe en 1908. C'est une salle qui a été ouverte par les Chocolats Poulain. Donc, c'est la première salle permanente nantaise.
Okay.
Les Chocolats Poulain, à l'époque, se saisissaient de ce nouveau média qui était le cinéma pour faire la promo de leur chocolat. Ouais. Donc, il y a eu un certain nombre d'American Cosmographes en France et on pouvait gagner... comme dans Charlie et la chocolaterie, il y avait des tickets de cinéma ou des bons de réduction dans les bars de chocolat pour pouvoir aller au cinéma. Donc, c'est eux qui ont ouvert la première salle nantaise.
D'accord, ok. Alors, si on revient au cinématographe, donc il y a eu la salle Saint-Pierre, après, là, je dis pas de bêtises, qui dépendait de la cathédrale, il me semble. Et ensuite, c'est devenu le Celtic pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Ça a fermé en 1980. Il me semble que ça a rouvert en 88 avec une salle unique de 140 places. À
150
peu près.
Places. Ça a rouvert en 83 en fait. 83. Le Celtic jusqu'à la fin des années 80. C'était vraiment une salle de quartier, surtout à la fin. Dans les années 70, ça passait beaucoup de films érotiques et de films de kung-fu.
Oui.
Alors qu'à l'ouverture, au début du siècle, c'était vraiment très classe. Il fallait venir bien habillé. Donc, au cours des... ça s'est transformé. C'est une grande famille de cinéma qui a rouvert et qui lui a donné son nom actuel, le cinématographe, en 83, la famille Pinault, qui possédait le 14A aussi et d'autres cinémas
disparus. Ça n'a rien à voir avec Bernard
Non.
Arnaud
Non, non okay. pas du tout.
Pas du tout.
Non, non, pas du tout. C'était une. Il y avait quelques familles de cinéma à Nantes et celle-ci était très importante. Ils avaient presque tous les cinémas autour du 14A qu'il y avait avant.
Oui, et l'Apollo, non aussi.
L'Apollo, c'était pas eux en l'occurrence, mais il y en avait deux autres, rue Scribe.
Oui. Voilà.
Et c'est lui, Jean-Serge Pinault, qui lui donne sa forme actuelle aussi, son look rouge et noir, enfin voilà, et qui l'appelle le cinématographe. Et ça dure jusqu'en 95. Mm-hmm. Et là, c'est fermé à nouveau. Oui. Et notre association le reprend en 2001.
Donc l'association Ciné-Nantes.
Ciné-Nantes à l'époque. Et maintenant, l'association s'appelle Le Cinématographe. C'est plus lisible.
Oui, c'est plus lisible. Donc ce cinéma, il se spécialise depuis ces années 90, on va dire, des années 90, dans les films de répertoire, le jeune public, l'éducation à l'image. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui va... Alors là, on parlait de l'histoire, ce qui va advenir de cette structure, parce qu'il y a des changements en vue, il me semble.
Oui, on travaille depuis plus de 10 ans sur un déménagement, en fait, parce qu'on est à saturation depuis longtemps sur cet unique écran. À saturation, on a des conditions de travail très limites. Voilà, pour les projectionnistes, pour nous, les bureaux ne sont pas au même endroit, il n'y a pas la place.
Ah, les bureaux ne sont pas
Non, il
n'y
a pas de place pour faire avoir des bureaux. Les projectionnistes travaillent dans un placard, en fait. Et puis, en termes d'accessibilité, c'est pire que tout, puisqu'on ne peut pas accueillir les spectateurs en fauteuil roulant, par exemple. Il s'agit d'avoir un cinéma avec plus d'écrans, plus d'espace.
Aux normes aussi.
Aux normes, et plus qu'aux normes, puisqu'on on travaille sur le futur cinéma depuis des années avec toutes les associations de tous les handicaps pour en faire un cinéma exemplaire. On est sur la norme, le confort d'usage plutôt que sur la norme légale.
La différence ?
La différence, c'est que par exemple, on peut avoir une porte d'entrée aux normes handicapées et légales que la moitié des personnes en fauteuil roulant ne vont pas pouvoir ouvrir toutes seules.
Ah oui, d'accord.
Donc, voilà, le confort d'usage n'est pas là. Donc c'est ça qu'on a travaillé.
D'accord. Ok. Et donc, c'est sur le site, pour les Nantais, de l'ancien Hippopotamus, il me semble.
C'est ça, sur le cours des 50 otages, donc le long du tram, dans la partie qui est la plus proche de la préfecture.
Oui, d'accord. Donc, il y aura quoi ? Il y aura combien de salles ?
Trois écrans.
Trois écrans.
Une grande salle qui fera à peu près la même taille que le cinématographe actuel, une salle donc environ 150 places, une d'environ 80 places et une petite salle d'environ 40 places.
D'accord, ok. Et donc, c'est l'idée, ce sera quoi ? Ce sera dans un immeuble, j'imagine, enfin,
un immeuble neuf, en fait. Donc, on passera de la plus vieille salle de Nantes à la plus, plus récente. Voilà, c'est exactement ça.
Oui, bah,
donc on passe de vieilles pierres du 18e siècle ou du 17e, je ne sais plus, à un immeuble en béton.
Ouais.
Mais ce n'est pas grave. Ouais. Le plus important, c'est bien ce qu'il y a sur l'écran. Et ce qu'on y fait, et ça ne changera pas, ce sera même mieux, j'espère.
Oui, ok. Et qui est-ce qui vous a soutenu dans ce projet ? Parce que vous êtes une association.
C'est pour l'essentiel la ville de Nantes, bien sûr. Ouais. Et puis le département aussi, un peu derrière. Mais c'est un projet avant tout ville.
Ouais. Ville, oui. D'accord. Et quand est-ce que c'est prévu alors l'ouverture ? Parce que c'est toujours difficile à dire parce qu'avec les travaux, ça a commencé de toute façon.
Oui. L'immeuble est construit d'extérieur. En tout cas, il reste tout l'intérieur à faire. Il y en a pour encore au moins un an de travaux. Donc, ça va ouvrir quelque part en 2026.
Quelque part en 2026. Ouais. On y sera, j'espère,
pour
venir inaugurer ce beau nouveau lieu, la plus ancienne salle qui deviendra la plus récente. Donc, c'est assez génial. Alors, est-ce que tu peux nous parler du rôle du cinématographe dans l'éducation populaire ? Qu'est-ce que vous organisez par rapport à ça ?
Alors, en fait, l'éducation artistique et culturelle, c'est le terme qu'on emploie, conduit toutes les actions de notre association, c'est-à-dire y compris la programmation d'une salle. Pour nous, c'est une partie de l'éducation artistique et culturelle, proposer une programmation la meilleure possible, faire connaître l'histoire du cinéma, etc. Ça participe de l'éducation. Après, dans une terminologie plus traditionnelle, on est coordinateurs départementaux de maternelle au cinéma, école au cinéma, collège au cinéma.
Oui.
Et puis, on a des actions envers les scolaires depuis la maternelle jusqu'à l'université.
Voilà. Donc, vous proposez des films tous les ans, c'est ça, au collège, lycée, avec des accompagnements pour les enseignants.
Ce qui est des dispositifs nationaux et officiels, les élèves voient un film par trimestre.
Ouais.
On est censé, je dis bien censé, parce qu'on n'est pas toujours aidé par l'éducation nationale, pouvoir former les enseignants. Ouais. À ces films-là, à l'analyse filmique et à ce que ce soit ensuite exploité en classe, en fait.
Oui.
Ça, c'est les dispositifs officiels et tout ce qu'on fait à côté, ça va... par exemple, samedi dernier, on avait on a laissé les clés du cinéma aux élèves d'option et de spécialité cinéma du lycée Guistot. Mm-hmm. C'est-à-dire que via un atelier de programmation, en début d'année scolaire, moi je vais les voir, on discute du métier, de ce que c'est. Et ensuite, parce que c'est que des filles, elles ont choisi une programmation sur un thème, pouvoir programmer ces quatre films, en faire la communication, faire en sorte qu'il y ait du monde, présenter les films en salle, etc.
Qui sont autonomes, en fait, sur ce projet.
Accompagnés
derrière,
mais oui, oui. Donc, on a eu une salle pleine toute la journée, samedi.
Ouais, super. Ils rameutent leur réseau. Juste une question. Les films qui sont programmés, donc collège cinéma, lycée cinéma, qu'est-ce qu'il est choisi
Alors, il y a pour chaque dispositif un catalogue national officiel qui a une centaine de films. Donc ça, c'est des commissions nationales qui choisissent les films qui entrent ou qui sortent.
Le ministère de la Culture, j'imagine
Au CNC. J'ai fait partie de celle de Collège au cinéma pendant quelques années. Ouais. Si ça n'a pas changé, j'imagine que non. On voit pendant plusieurs sessions dans l'année, de 2-3 jours, on voit des films, on discute et puis on vote pour des films qui vont intégrer le catalogue,
d'accord,
d'autres qui vont en sortir, etc. Voilà. Et ensuite, localement, enfin départementalement, pour être plus précis, on se réunit avec des salles, des enseignants et nous, et on discute de la programmation de l'année suivante. Donc on va dans ce catalogue-là, choisir un film par trimestre.
D'accord, ok. Donc les enseignants ont aussi droit au chapitre, du coup.
Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est ça aussi, c'est ouais. de l'éducation artistique oui, et culturelle. Discuter, ouais. Se convaincre ouais. De la pertinence de ouais. tel ou tel film, ouais. écouter les arguments des uns et des autres, entendre pourquoi un film peut être problématique pour des enseignants. Voilà.
Il y a une autre mission confié par le département depuis 2006 sur le réseau des cinémas associatifs du département, qui s'appelle SCALA. Alors SCALA, qu'est-ce que ça veut dire déjà?
Eh bien, c'est un acronyme qui sonne bien, SCALA, ça sonne pas mal. Voilà.
Plutôt joli.
C'est un acronyme qui signifie Salle de cinéma associative de Loire-Atlantique.
D'accord. Voilà.
Donc, il se trouve qu'on est 36 cinémas associatifs en Loire-Atlantique, c'est le record de France.
Oui.
Voilà. Donc ça compose un maillage territorial unique, puisque c'est le record de France, avec des communes de 3000 habitants qui ont leur cinéma, jusqu'à la métropole nantaise. Mais
quel est votre rôle, en fait, avec ces cinémas disséminés dans le département?
On a pour rôle d'animer et de former le réseau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on propose aux équipes des salles qui sont très diverses. Il y a des salles qui n'ont pas de salariés, d'autres qui en ont, enfin des équipes bénévoles plus ou moins grandes ou plus ou moins compétentes dans des techniques, dans de la technicité, on va dire. Donc on va proposer des formations techniques, des formations à la gestion. On va discuter de programmation ensemble. On va se voir tous les 2 mois environ pour faire ce qu'on appelle des prévisionnements. C'est tout un samedi, on tourne dans plusieurs salles. Donc, du samedi matin au samedi soir, on va voir ensemble 5-6 films dont on va discuter, donc des films qui ne sont pas encore sortis. Nous, ça nous permet de défendre des films qui ne seraient peut-être pas vus et pas programmés par ces salles-là. Parce qu'à partir du moment où on a vu un film, on a peut-être plus envie de le programmer. Et on le défend mieux, surtout, une fois qu'il est sur son
écran. Tout à fait. C'est vrai qu'on voit la variété, à la fois la différence en termes de programmation de ces cinémas qui s'expliquent, bien évidemment.
Oui, on a un autre corps en Loire-Atlantique. C'est le plus grand nombre de salles à réessais dans un département en France.
Ouais. Les gens du département de Loire-Atlantique ont cette envie de cinéma qui est assez fabuleuse, puisqu'ils sont habitués depuis tout petit à y aller. Ça favorise ça. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 à l'écoute de Film et moi, l'émission mensuelle de cinéma. En avril, ne vous découvrez pas d'un fil et maintenez celui qui vous lie à vos salles préférées, car elles continuent à vous proposer de riches programmations et événements en tout genre dont j'ai fait une petite sélection. Au Concorde, à partir du 26 mars, vous pourrez suivre le parcours d'une lanceuse d'alerte au Japon qui dénonce les failles du système médiatico-judiciaire dans Black Box Diaries de Shiori Ito. Vous pourrez aussi suivre la vie en amitié de personnages férus de motocross dans le poignant film d'Antoine Chevrolier, La Pampa, tourné dans les Pays de Loire. Vous pourrez échanger le 27 mars à 20h30 avec le réalisateur du puissant film documentaire White Power, portrait d'une extrême droite radicale qui poursuit sa progression et ébranle nos démocraties fragilisées. Au 14A, ne manquez pas l'avant-première le 3 avril du film Oksana de Charlène Favier sur l'artiste et activiste ukrainienne Oksana Chatchko, cofondatrice des Femen. Au cinéma Saint-Paul de Rezé, vous pourrez voir plusieurs films documentaires dans le cadre du Forum Visage du 25 au 27 mars. Au cinéma Lutetia de Saint-Herblain le 29 mars à 20h30, parce que musique et cinéma font souvent bon ménage, les 70s seront convoqués pour un ciné-concert avec la projection du film des frères Cohen Inside Llewyn Davis et un concert du groupe Two Folks. Et plein d'autres riches programmations que vous pouvez retrouver sur les sites de vos cinémas préférés. Surtout, restez curieux de cinéma en ce printemps prometteur de douceur. Merci beaucoup, Emmanuel, directeur du Cinématographe, d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Merci à toi et puis à bientôt. Et longue vie au Cinématographe et à sa nouvelle vie, on va dire. Et puis à très bientôt, on en reparlera. Et je vous retrouve en avril pour un nouveau Film et moi.
C'était Film et moi, l'émission cinéma mensuelle sur Jet 91.2. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le site de Jet, jetfm.fr.